Alléluia. Voilà. Quelle joie de se retrouver dans la maison du Seigneur. C'est pas toujours évident en ces temps difficiles. Mais je viens en ambassadeur avec des bonnes nouvelles. N'est-ce pas? En ambassadeur, je viens avec les pouvoirs plénipotentiaires. N'est-ce pas? Un ambassadeur, quand il est envoyé dans un pays, il va avec les pouvoirs plénipotentiaires. Donc, il part avec le pouvoir de son président. Et ce matin, je viens avec l'Esprit du Seigneur. Et je dis, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont un cœur brisé. N'est-ce pas? Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour les aveugles, excusez-moi, le recouvrement de la vue. Envoyé libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui oins tes serviteurs pour parler en ton nom. Et je sais ce matin, Seigneur, que tu nous as précédés et que tu permettras, Seigneur, à ce que tu as prévu pour chacun de tes enfants ici présents lui soit communiqué avec amour, avec la force de ton esprit. Et avec la présence de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu permettras à ce qu'un cœur soit touché, à ce qu'une vie soit transformée, à ce que nous soyons tous unis comme un seul homme, persévérant, prenant conscience de la puissance et du pouvoir que tu nous as donné par la force du Saint-Esprit. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres. On va faire beaucoup de lectures, mais on va y aller progressivement. Et le Seigneur veut parler à un cœur ce matin. Et je vous prie d'ouvrir vos cœurs. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 37. C'est ce verset qui va nous conduire dans ces moments de gloire. Alors, je lis. Après avoir entendu ces discours, retenez, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Je me suis exercé à lire sur plusieurs versions de la Bible, et je vais les lire pour vous. Dans la Bible Nouvelle Seconde, il est dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, que devons-nous faire? La Bible Français Courant, les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Excusez-moi, je dois bien m'installer. Voilà. Alors, ici, Jésus, après sa mort, est apparu à ses disciples. Et pendant son apparition, pendant ces temps, pendant 40 jours, Jésus s'est attelé à parler des choses du royaume aux disciples. Et ma conviction, c'est que Jésus, après avoir été crucifié, c'est que il avait à cœur de parachever la mission qui était la sienne et rassurer ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont pris sur eux l'opprobre, ceux qui ont pris avec le Christ la souffrance de la bonne nouvelle, d'apporter la bonne nouvelle aux opprimés et aux pauvres. Jésus s'est attelé a donné des instructions à ses disciples. Et parmi ces instructions, c'était qu'il ne fallait pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez près de Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus plantait les bases de notre mission aujourd'hui. Jésus annonçait une voie, celle de porter le fardeau de la bonne nouvelle. Alors, en ces temps-là, les apôtres, disciplinés, organisés, sérieux, ont été obéissants. Parce que je me dis, après la mort du Christ, ils auraient pu partir. C'est dire, bon, Jésus est parti, nous avons le pouvoir, nous pouvons désormais prêcher, faire des miracles et des prodiges. Mais ils ont écouté attentivement et ont obéi avec sérieux aux instructions du Maître. Et on pourra le lire, on va avancer ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 1, 10 jours après l'ascension de Christ. Alors que les apôtres persévéraient dans la prière, ils étaient souvent dans la chambre haute, en train de prier, boum! Ah! D'accord? Et il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de la précision. Dieu est un Dieu de la constance. Il a promis, il a réalisé. Jésus dit, vous recevrez l'Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. 10 jours après, cela se réalisait. Mais cela se réalise quel jour? Le jour de la Pentecôte. Et ce jour, c'est un jour de rassemblement, c'est un jour de fête. Et un jour particulier. Regardez la préscience du Seigneur. En ce jour de Pentecôte, il y avait non seulement des autochtones, donc des Juifs de Jérusalem, mais il y avait pratiquement les représentants de toutes les nations venus pour la Pentecôte, le rituel habituel, il fallait être là parce que c'était une grande fête. Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint descendant sur les disciples, remplis de cette puissance, les langues de feu professées ou proclamées selon que chacun pouvait être touché. Les uns parlaient en ma langue maternelle, les autres parlaient en russe, les autres en anglais, en arabe. Ah, c'était bouleversant pour ceux qui étaient là, parce que pour eux, ce n'est pas des langues communes. Mais comment des juifs ou galiléens peuvent-ils parler ces langues? Cela a provoqué une stupeur, provoqué un étonnement. Et les gens ont accouru. Ils ont accouru pour voir qu'est-ce qui se passait parce que c'était d'une puissance jamais vue. La Bible dit un vent impétueux. C'était d'une puissance inouïe. Et je crois que le Saint-Esprit est avec nous en ce moment. Et je voudrais que vous puissiez ouvrir vos cœurs pendant qu'on avance ensemble pour comprendre la force et la puissance de notre Dieu. En entendant ces paroles, en entendant ces langues, ils ont compris, ils recevaient des messages spécifiques, ils recevaient une conviction spécifique, ils recevaient une révélation spécifique. Et Dieu leur disait, je suis sûr, dans leurs différentes langues, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » D'accord ? Il leur disait, parce qu'il rendait témoignage. Le témoignage était déjà en train d'être rendu pour le sacrifice à la croix de Jésus. Et Dieu fidèle, constant, voulait confirmer effectivement au monde, à l'univers tout entier, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Le message central de l'Évangile. Dieu avait opéré des miracles. Dieu avait rendu témoignage à Jésus et aux apôtres. Mais en ces temps-là, il y eut effectivement des gens, bien entendu, comme aujourd'hui encore, qui étaient remplis d'une très grande incrédulité. Voyant les apôtres parler en anglais, en chinois, en arabe, il s'est dit, mais ces gens sont ivres. La parole de Dieu dit, dans des mots, je dirais, élégants, ils sont pleins de vin doux. Vous lirez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, donc au verset 13. Alors, l'apôtre Pierre, qui, au passage, fait preuve d'un leadership assumé, se lève et prend la parole. Il dit, mes frères, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, il n'est que 15 heures. Je ne sais pas, c'est la troisième heure. Ce n'est pas encore le temps où on va s'asseoir dans notre bar pour prendre notre verre. Ici, on est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et pour marquer cela, l'apôtre sérieux, rempli du Saint-Esprit, avec la conviction qu'il avait désormais la mission avec les autres apôtres de parler au nom de Jésus, a pris la parole pour exhorter ces incrédules. Et parmi ces incrédules, il y avait les autochtones, donc juifs, mais aussi ceux qui venaient de notre pays, qui se disaient, c'est des hommes ivres. Alors, il se passe que l'apôtre Pierre rappelle quelques prophéties essentielles dans son discours. On peut le découvrir dans Actes des Apôtres, toujours le chapitre 2, à partir du verset 17. L'apôtre Pierre évoque l'accomplissement des prophéties sur l'avènement du Saint-Esprit. Joël l'avait prédit en ces termes. Verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon nom sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et je vous fais l'économie de ceci parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il leur dit ça. Et moi, je pense que l'homme, malheureusement, a la mémoire courte parce qu'il y a eu tous ces hommes qui sont venus et qui ont annoncé Jésus. Jésus étant venu et parti, ils n'avaient pas saisi la portée et la puissance. Et je prie pour que cette assemblée ne puisse pas tomber dans la distraction, que la maturité spirituelle soit le partage de cette Église. L'apôtre Pierre, poursuivant son laïus, confirme et dit à ce peuple, c'est Jésus que vous avez crucifié et arrêté. Mais vous l'avez fait parce que c'était un plan arrêté par Dieu. Et David, le roi David, avait prophétisé aussi à l'avance sur l'élévation de Jésus à la droite du Père. Je nous invite à lire Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 25. Il est dit, « Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que point en l'ait. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta préscience. » Pierre insiste, il dit, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Mais le sépulcre de Jésus est vide. » D'accord ? Il n'est pas là, il est ressuscité. Alors il dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il avait prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et pour conclure, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, nous sommes au verset 36, que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. L'homme a la mémoire courte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le thème de mon message, c'est « Un cœur pour Dieu fait une Église puissante ». Ils eurent un cœur touché parce que les apôtres étaient remplis de l'Esprit Saint. Et quand on est rempli de l'Esprit Saint, il se charge lui-même de la conviction des cœurs. Ces personnes moqueurs furent touchées profondément. Ils furent bouleversés. Dérangé, lisez dans toutes les versions possibles. Et ici, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour parler du cœur de l'homme. On va ouvrir cette petite parenthèse. Nous savons tous que le cœur de l'homme est le centre de toute vie physique et spirituelle. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a les désirs. C'est dans les cœurs de l'homme qu'il y a les projets, les envies, les passions, les émotions. Le cœur de l'homme, c'est le siège de l'intelligence. Le cœur de l'homme, c'est le siège de la sagesse. Le cœur de l'homme dicte ma volonté. Le cœur de l'homme dicte son caractère. Dieu veut parler à ton cœur. Sans ton cœur, l'Esprit Saint ne peut rien faire parce que tu t'attaches ou tu comptes sur tes propres moyens. Le cœur de l'homme est essentiel à une vie physique. Aujourd'hui, si je perds mon cœur, quelle que soit la vigueur de mon corps, je n'ai plus de vie. Je peux avoir un bras amputé, je continuerai à vivre. Et Salomon nous dit, garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Dieu veut parler à un cœur et il te pose la question, quel est l'état de ton cœur ce matin? Dieu aime parler au cœur parce qu'il veut susciter une action. Dieu veut parler à ton cœur parce qu'il veut impacter ta génération. Dieu veut parler à ton cœur parce qu'il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit et de puissance. Dieu veut parler à ton cœur pour que quand tu professes sa parole, elle ait de l'effet. Tu dois être en harmonie avec lui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Retenons ceci. Le cœur de l'homme est le moyen, je vais trouver une formule, est le moyen par excellence où l'amour de Dieu, sa bienveillance sont expérimentés. Je me reprends. Ton cœur est le moyen par lequel l'amour de Dieu et sa bienveillance, donc la plénitude de sa grâce, la magnitude de sa puissance, est expérimentée. Et cela est possible, est rendu possible par la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi on nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Par ton cœur, tu peux maudire. Par ton cœur, tu peux appeler à la vie. Par ton cœur, tu peux tuer. Parce que si tu as un cœur mauvais, tu portes un zèle amer. Dieu veut parler à ton cœur ce matin. J'ouvre une autre parenthèse. Et je nous invite à partir sur Luc, chapitre 4. Je vais sauter quelques versets, mais juste pour communiquer ma pensée ou la pensée du Seigneur. Jésus rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4, à partir du verset 27. Après avoir passé un temps dans le désert, il est reparti dans sa ville. Entrant dans la synagogue, il ouvre le livre d'Ésaïe. Et vous comprendrez pourquoi j'ai dit que je suis un ambassadeur ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je saute au verset 20. Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils étaient contents, ils disaient, ah, voilà un de nos frères. Il parle avec une telle puissance. Regardez. Jésus parle avec cette puissance, ils sont étonnés. Mais quand Jésus dit la vérité, ça fait mal. Hein? Jésus leur a dit la vérité. Il leur a dit, nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Verset 22, il dit, et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés de la parole de grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Je saute verset 24. Mais ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. N'est-ce pas? On va sur le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps, ça c'est Jésus qui parle, en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ça vaut la peine. Et Jésus avait je vais dire, les raisons de le mentionner. Et regardez au chapitre 28 ce qui se passe. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et regardez jusqu'où ils vont. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. je ferme la parenthèse, mais c'est juste pour dire que le cœur de l'homme est versatile. Ils sont passés d'une profonde admiration à une grande colère. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Alors, l'attitude incrédule des témoins du jour du baptême, donc du jour de la Pentecôte, c'est une posture malheureusement que nous vivons, que nous pouvons vivre aujourd'hui sur diverses formes, aussi bien au sein de l'Église, en dehors de l'Église. Et comme je le disais tout à l'heure, l'une des raisons qui peuvent être sa source, c'est notre cœur. Et ce cœur poussé par un zèle amer crée des tumultes au milieu de nous, que ce soit dans nos milieux professionnels, que ce soit dans les assemblées, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans nos milieux sociaux et culturels. Notre cœur a une importance particulière à jouer. Et donc, les raisons qui conduisent ou qui ont conduit ces personnes à avoir cette attitude désinvolte vis-à-vis des disciples pouvaient justement refléter un petit peu la qualité de leur cœur, la qualité de leur vie, l'incrédulité de leur situation, la mémoire courte qui était la leur. Et au sujet justement du zèle amer, j'aime bien ce que Jacques, l'apôtre, un des apôtres, donc frère de Jésus, dit, là où il y a le zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On peut lire ça dans Jacques 3, 16, si vous prenez des notes. Alors, d'où viennent ces luttes? D'où vient le zèle amer? On a compris tout à l'heure que quand tu as un cœur mauvais, de lui, tu as toutes les choses mauvaises. Tu actionnes toutes les choses mauvaises. Et Jacques toujours nous recommande, on va lire ensemble, j'aimerais qu'on lise cela pour que ça rentre dans nos cœurs. Jacques au chapitre 4. Où il esquisse un peu quelques raisons pour laquelle ou pour lesquelles le zèle amer existe au milieu de nous. Il est écrit, Jacques, verset 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. D'accord? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions égoïstes. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce excellente, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quel est l'état de ton cœur ce matin? Avec un cœur mauvais, l'Église perce de sa puissance. Es-tu dans la murmure? Es-tu dans la critique négative? Sombres-tu dans la jalousie? Sombres-tu dans la méchanceté gratuite? Ces choses, si elles règnent dans ton cœur, l'Esprit de Dieu ne peut rien activer de puissant et de surnaturel en toi. Mais Dieu t'aime et il veut que tu puisses réformer ton cœur. Dieu t'aime et il te tend la main chaque matin pour te dire « je t'aime, je te donne une seconde chance ». Rentre en toi-même, regarde-toi en face du miroir, tu te connais. Moi, je te connais parce que je sonde les cœurs et les reins, mais toi, tu te connais toi-même. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec toi-même pour que tu puisses saisir la portée de la puissance de ma parole, de mon amour, de ma bienveillance, mais de l'amplitude de la présence, l'amplitude de la présence du Saint-Esprit. Je voudrais revenir avec vous dans Actes des Apôtres. On va un petit peu regarder l'église de Jérusalem. Les raisons pour lesquelles cette église était puissante. Cette église avait un cœur pour Dieu. Et je vous l'ai dit, un cœur pour Dieu fait une église puissante. L'église de Jérusalem, donc celle de Jean, Pierre, tous, Jacques, elle était puissante parce qu'ils suivaient l'enseignement des apôtres. Ils adoraient la parole du Seigneur. Ils ne respiraient que grâce à elle. Ils pratiquaient la communion fraternelle et la Sainte Cène fréquemment. C'est important de communier entre frères. Non, lui, il est comme ça. Non, lui, il est orgueilleux. Non. Nous sommes frères, parce que Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Je suis le frère de Jésus, tu es le frère de Jésus, restons ensemble. Il persévérait dans la prière. Si vous voulez des références, je peux vous en donner. Actes des Apôtres, chapitre 2. Au verset 42, vous découvrirez effectivement qu'ils persévéraient dans la prière. Il est même dit qu'ils avaient, et moi j'aime bien cela, ils étaient souvent dans la chambre haute. Combien de temps passes-tu dans la présence du Seigneur? As-tu une chambre haute? Il y a la puissance dans la chambre haute. Ils opéraient des prodiges et des miracles. La puissance du Saint-Esprit. Il y a un passage qui me revient à l'esprit, mais c'est un peu plus loin dans Actes des Apôtres, je n'ai pas la référence, mais je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est que les disciples et les apôtres, ils étaient tellement puissants que les peuples de cette époque-là, ne sachant pas où, vu qu'il y avait une grande foule qui accourait, regardez le degré de la foi, c'est qu'ils voulaient se poser. Quelqu'un qui est malade, sachant que Stéphane rempli du Saint-Esprit passera par là, son ombre ne fût-ce que cela. Si son ombre peut me couvrir, je peux être guéri. C'est pour vous dire la puissance qu'avaient ces apôtres, l'Église de Jérusalem. Ils étaient d'une puissance parce que remplis du Saint-Esprit. Ils voyaient un accroissement constant par les témoignages des membres. Actes chapitre 2, verset 47, vous allez le lire. Et avant de poursuivre, j'aimerais toujours, en ce qui concerne l'Église de Jérusalem, vous inviter à examiner ensemble particulièrement les traits de caractère des apôtres pour qu'on puisse être édifiés ensemble sur comment nous pouvons transformer nos cœurs. L'un des traits de caractère, c'était l'obéissance. Ils ont scrupuleusement respecté les instructions de Jésus. On a vu ce qui s'en est suivi. Actes des Apôtres, chapitre 1, 4 à 5, vous pouvez voir effectivement que Jésus donnait des instructions qu'ils ont respectées. Ils étaient rigoureux, disciplinés, persévérants dans la prière. Rigoureux, pourquoi je le dis? Parce que quand Jésus... Lors de l'ascension de Jésus et qui sont rentrés à Jérusalem, ils ont pris les choses en main. Se préparant, sachant que quelque chose allait se passer, ils ont commencé à se mettre à l'œuvre du royaume. Et parmi eux, il y avait un qui avait trahi Jésus. Il s'agit de Judas. Ils se sont mis ensemble. Voici la rigueur. C'est que on se met ensemble, on discute, on voit qui parmi les frères a été défaillant. Et on lui dit, tu n'as plus le droit de témoignage. Donc, tu n'as plus le droit d'être appelé apôtre parce que tu as trahi le Christ. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont choisi au milieu d'eux des gens qui étaient là avec eux, qui étaient fidèles, qui persévéraient. Donc, dis-toi bien, sois-tu assis derrière la salle ou devant, Dieu te voit. Dieu voit tes efforts pour vivre selon ses recommandations. Dieu te voit. Les apôtres étaient unis. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. C'est un seul corps, ça. Hein? Un seul cœur, une seule âme. Vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 2. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Sommes-nous en harmonie les uns vis-à-vis des autres? Suis-je en harmonie avec moi-même? C'est important. Parce que je dois être aussi en harmonie avec moi-même pour être en harmonie avec le Seigneur. Parce que si je suis en harmonie avec moi-même, je suis honnête. Et je dis, Seigneur, oui, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que dans ce secteur de ma vie, je ne suis pas fidèle. Je reconnais que dans telle autre attitude, je n'ai pas été chrétien. Je reconnais que dans telle autre situation, mon comportement n'a pas reflété le royaume des cieux. C'est ça, être en harmonie, déjà, d'abord, avec soi-même. Es-tu en harmonie avec toi-même? Si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, sache que le Saint-Esprit est là. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que tu sois en harmonie avec toi-même, pour que ton cœur soit tranquillisé, pour que ton cœur soit encouragé. Les apôtres étaient courageux. Ils ont tenu tête aux juges, donc les Sanhédrin, qui les persécutaient. Ces gens qui disent, vous n'avez pas le droit de parler au nom de Jésus. Pour qui vous vous prenez? Les apôtres, les regardant avec une telle, j'ajoute mes mots, avec une telle élégance, une telle simplicité, une telle assurance, et dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quel courage! Ils étaient prêts à aller au cachot ou en prison. Ils étaient prêts à être incarcérés pour le nom de Jésus. Et ils avaient un motif de joie quand ils savaient qu'ils étaient persécutés pour la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient persécutés en enseignant de la part du Seigneur. C'était un motif de joie pour eux. Ils étaient pleins d'assurance, confiants. Mais plus important, ils étaient entreprenants. Ils étaient missionnaires. Nous leur devons nos assemblées aujourd'hui. Nous leur devons le Nouveau Testament. Et nous avons le devoir d'écrire encore des épîtres pour les générations à venir. Nous avons la responsabilité. Paul, Pierre, Jean, tous nous ont donné la voie. Ils ont été entreprenants. Ils prêchaient dans le nom du Seigneur, non seulement aux assemblées, mais dans les maisons. Hier en réunion ici, j'aimais bien, on a parlé d'évangélisation de proximité. L'église de Jérusalem était une église de proximité. Elle était proche du peuple. Elle communiait souvent avec le peuple. Les apôtres étaient d'une grande intégrité. Ils mettaient tout en commun à cette époque-là. J'ai mes 300 hectares, poup, je vais les vendre. Allez, apôtre, pop, je dépose. Je viens, pasteur Jean-Jacques, voici ma part. Ils mettaient tout en commun. Ils vivaient l'un pour l'autre. Oh oui, pasteur Alain est dans une difficulté, je suis là. Je ne le laisse pas. ils étaient unis. Et la puissance du Saint-Esprit, tellement elle était là sur eux, parce que tous ces traits de caractère, tous ces éléments, tous ces ingrédients étaient avec eux. Ceux qui osaient être avares, ceux qui osaient être malhonnêtes, payaient cash le prix. Cash. Ananias et Saphira. Pasteur Alain, j'ai vendu mes 1000 hectares, mais j'en amène 800. Pasteur Alain qui dit, hop, mais c'est pas moi que tu as menti. C'est au Seigneur. C'est au Saint-Esprit, il est là. Et qu'est-ce qui se passe après? Il est parti. Sa femme est arrivée. La même chose. Hop, 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 hop. Oh, oh. Le Saint-Esprit connaît à combien tu as vendu ça. Voici, elle ouvre, les gens qui vont ouvrir la porte maintenant vont partir avec toi. Dans quel état ils vont partir avec toi? La puissance des apôtres. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient puissants. On peut citer Étienne. La puissance d'Étienne dérangeait. La puissance d'Étienne faisait mal. Il dit, mais pour qui ils se prennent? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? La Bible dit, il était rempli de grâce et de puissance. Parce que le Saint-Esprit était là. Ils étaient puissants. Au point où Gamaliel exhorta les Sanhédrins et les juges, il dit, mes frères, vous savez, à un moment donné, soyons sérieux, ces gens que nous persécutons, s'ils viennent d'eux-mêmes, leur œuvre n'ira pas loin. Mais s'ils viennent de la part du Seigneur, quoi que vous fassiez, vous ne serez pas en mesure de les arrêter. Que devons-nous faire? Les Juifs moqueurs ont posé la question à Pierre. Ils disent, Pierre, que devons-nous faire? Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu as un cœur malade, qu'est-ce que tu dois faire? Répands-toi. Tu as un cœur incrédule, qu'est-ce que tu dois faire? Répands-toi. Tu as un cœur rempli de haine, qu'est-ce que tu dois faire? Répands-toi. Rentre rapidement en harmonie avec ton Dieu. On va conclure là, on n'a plus beaucoup de temps. Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit. C'est un don gratuit, disponible pour nous tous. Les prodiges et les miracles qu'opérait Pierre continuent à être opérés aujourd'hui. Et vous pouvez les opérer aussi. La parole de Dieu est à confesser. On nous l'a dit dimanche dernier. Et avant de confesser la parole de Dieu et d'activer toute sa puissance, rassure-toi d'avoir un cœur en harmonie avec toi-même et en harmonie avec ton Dieu. N'est-ce pas? Alors, et qu'est-ce que Dieu dit? Mais le Consolateur, Jean 14, 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, quand tu es dans une situation difficile, te rappelle la puissance de la parole de Dieu, te rappelle sa promesse pour toi. Professe, confesse-la. Sois en harmonie avec toi-même, sois en harmonie avec tes frères, proclame la parole du Seigneur, repens-toi quand tu es dans le tort, demande pardon quand tu ne peux pas, quand tu es en faute. Le Seigneur veut toucher chaque jour un cœur. Mais les tumultes de mon cœur, les tumultes de ton cœur te rendent aveugle au point où tu n'entends pas, tu ne vois pas les signaux que le Seigneur te communique. Alors ce matin, sois en harmonie avec le Seigneur. Sois en harmonie avec le Seigneur. Et je vais conclure sur cette note, mise en garde, que le Seigneur nous adresse. Et c'est Jean qui l'a dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia. Pour mettre ça dans le contexte, il s'adressait à l'église d'Éphèse. Rentre à ton premier amour. Alors, je voudrais saisir ces moments pour que on prenne 2-3 minutes de prière ensemble. Et je demanderai à mon frère Donatien de nous accompagner avec une petite note de mélodie inspirée par l'Esprit Saint. Je sais qu'il le sera parce qu'il est là. Et on va prier. Et je ne voudrais pas demander à qui a un cœur mauvais ou qui s'est examiné de se lever. Mais je vais dire à nous tous, levons-nous. Nous avons sans doute quelque part dans nos cœurs où il y a quelque chose que le Seigneur doit faire ce matin. Et dans cette petite séquence, je vais inviter le pasteur Alain, le pasteur Jean-Jacques, le pasteur Pierre. Chacun vont dire une prière de délivrance, une prière de restauration, une prière de relèvement. Nous avons besoin d'avoir des cœurs en harmonie les uns vis-à-vis des autres. Rentre en toi-même et dis et parle à ton Seigneur. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par la puissance du nom de Dieu. C'est par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que tu peux soigner un cœur ce matin. C'est par ton esprit, Seigneur, que tu peux guérir un cœur ce matin. C'est par ton esprit, Seigneur, que tu peux délivrer quelqu'un, Seigneur, de la haine. C'est par ton esprit, Seigneur, que tu peux délivrer un cœur qui est contrit. C'est par ton esprit, Seigneur, ce matin, que tu peux relever un cœur qui est dans le doute. Seigneur, c'est par ton esprit ce matin que tu peux révéler encore la puissance de la croix. C'est par ton esprit ce matin, Seigneur, que tu peux nous ramener aux fondamentaux. L'Église de Jérusalem, unie, forte et puissante, un seul cœur, une seule âme, brille en ton cœur. Pasteur Alain. Alléluia. Merci Jésus.
Oui Seigneur, devant.
Oh Jésus, devant, ne te retiens pas.
Devant cette parole, nous voulons revenir à toi.
Oh Jésus.
Nous voulons revenir, Seigneur, au premier amour. L'amour que nous avons eu lors de la conversion. C'est vrai, nous sommes dans cette génération où l'amour se refroidit. Et ce matin, nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, nous voulons nous tenir prosternés devant toi et confesser nos péchés. Confesser nos péchés comme Néhémie l'a confessé devant le désastre de Jérusalem. Devant cette ville qui devait apporter la gloire de Dieu, le témoignage de Dieu, était dans la désolation. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre conscience, regarder au plus profond de notre être et revenir à toi. Je bénis ton nom ce matin parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es celui qui nous tend la main. Ce matin, Jésus te tend la main. Il te tend la main. Il veut te relever. Il veut te restaurer.
Alléluia.
Il veut te rendre à nouveau.
Alléluia.
Jésus le veut. Alléluia. Alléluia.
Pasteur Jean-Jacques. Oui, Seigneur, nous ne voulons surtout pas être finalement les obstacles à la bénédiction. Nous savons que, Seigneur, tu as fait des promesses à l'Église, et non pas seulement pour elle, mais pour ceux qui l'entourent, et afin que nous puissions porter effectivement ce beau message, et non seulement en parole, mais en acte. Seigneur, nous savons que dans nos cœurs, il peut se trouver des choses qui nous sembleraient insignifiantes, mais si elles sont des obstacles, elles sont finalement bien plus grandes que ce que nous pensons. Et c'est pourquoi nous voulons sonder nos cœurs, Seigneur, ne pas tolérer quelque chose qui, à nos yeux, serait insignifiant, mais qui, à tes yeux, est considérable. Alors nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur.
Amen.
Et nos cœurs touchés, ce n'est pas simplement pour supposer, effectivement, qu'il y a quelque chose de trop grave chez l'un, mais ce peut être si peu chez nous, mais tant pour tant. Alors, Seigneur, nous voulons nous examiner nous-mêmes, personnellement, et nous comprenons que tu as parlé pour encourager, pour exhorter et pour permettre à ton Église d'entrer dans la dimension que tu as voulu pour elle.
Amen.
Merci Jésus.
Merci Jésus.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Amen.
Gloire à Jésus.
Amen.
Répétez après moi. Alléluia.
Alléluia.
Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta parole. Je l'ai reçue. Seigneur, tu m'aides maintenant à mettre en pratique ta parole. Seigneur Jésus, je m'attends à toi. Je compte sur toi pour que ton esprit, Seigneur, saisisse mon cœur, saisisse mon âme. Seigneur, étends ta main. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Et merci pour ce que tu fais encore, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je te loue. J'exalte ton nom. À toi seul soit la louange. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais finir avec cette prière. Seigneur, j'ai fait ma part. En ambassadeur, j'ai déposé le message. Toi seul, dans ton amour, dans ta puissance, dans ta magnificence, dans ton omniprésence, tu toucheras chaque cœur ici présent. Par la force de ton esprit, tu donneras un nouveau départ à un cœur ce matin. Alors, mes frères, je voudrais vous dire, partez tel que vous êtes, ayant reçu cette parole, sachant que vous avez l'Esprit avec vous. Soyez vrais avec vous-même, soyez en harmonie avec Dieu. Et activez toute la puissance de l'amour de chacun de vos cœurs pour que vous soyez cette lumière du monde, pour que vous soyez ce sel de la terre.
Alléluia.
Que mon Dieu, mon Jésus,